Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.
En fait, on a lancé les inscriptions en septembre. On a eu un phénomène à la paléo, c'est-à-dire qu'en 2 heures, tout était réservé.
Plus le marché du cannabis est libéral et commercial, plus le contrôle de l'État doit être renforcé et les mesures d'accompagnement doivent être importantes.
Il est là, le produit. On ne peut pas le nier. Mais c'est trouver une place acceptable.
Bonjour, c'est Spectra. En 2014, l'État américain du Colorado ouvrait le marché du cannabis récréatif. Depuis, le nombre de pays qui ont changé leur politique du cannabis ne cesse de prendre de l'ampleur. En Suisse, la situation change aussi. Les projets pilotes fleurissent dans les grandes villes et récemment, au mois de novembre, le Conseil fédéral a émis un rapport important sur le sujet. En toile de fond, la question de la protection de la santé publique est une réglementation qui minimise les coûts pour la société. Pour ce podcast de Spectra consacré à la politique du cannabis, nous sommes allés à la rencontre de 3 spécialistes pour aborder ce sujet sous les angles politique de la santé, psychiatrie et risques, et du point de vue de la recherche à l'intérieur du dernier projet pilote de Suisse à Lausanne. Encore une fois, j'ai rencontré des personnes passionnantes et engagées pour parler d'un sujet où la Suisse peut se distinguer et peut-être en inspirer d'autres.
Alors pourquoi changer de politique ? Actuellement, la situation dans le domaine du cannabis, elle n'est pas satisfaisante, elle ne correspond plus à la réalité sociale. Et ça, c'est un constat que le Conseil fédéral a fait dans son récent rapport en réponse au postulat Minder. Il a été publié début novembre de cette année.
Coralie Ménétret travaille à l'Office fédéral de la santé publique dans la section base politique et exécution et à la division maladies non transmissibles.
Depuis plusieurs années, la consommation de cannabis stagne à un haut niveau. Il y a environ, même plus que 220 000 personnes qui consomment régulièrement du cannabis à des fins récréatives. Et en parallèle, le marché noir, il est florissant. Et ça implique des risques assez importants pour les consommateurs, notamment d'avoir des produits qui sont coupés, qui sont pas purs, qui sont contaminés avec d'autres substances. Il y a aussi, avec ce marché noir, pas de protection pour la jeunesse, évidemment, ou bien encore une certaine criminalisation qui est associée. Et pour ces raisons-là, ça vaut la peine de réfléchir justement à une nouvelle réglementation du cannabis qui pourrait permettre d'atténuer tous ces effets, enfin en tout cas une certaine partie de ces conséquences négatives de l'interdiction actuelle, à la fois sur les consommateurs mais aussi sur la société.
Le but de la nouvelle politique est de trouver le bon curseur entre, à un extrême, la prohibition totale et à l'autre extrême, un marché totalement libéralisé. Aucun de ces deux extrêmes n'étant à même de remplir les objectifs de santé publique.
Mais entre ces deux extrêmes, il y a justement différents modèles de réglementation qui sont des options intermédiaires, si on veut. Et du point de vue du Conseil fédéral, il y a, disons, 2 alternatives qui ressortiraient. Donc une première alternative, ce serait de lever l'interdiction de la consommation, de la détention et de l'auto-approvisionnement du cannabis. Donc ici, il s'agit d'un modèle d'autoproduction, ou bien de culture communautaire, donc ce qu'on appelle un peu plus communément les cannabis social clubs. Cannabis social club, c'est un des projets pilotes qui existent à Zurich. Et en Europe, on retrouve ça par exemple en vigueur maintenant à Malte, au Luxembourg ou bien aussi en Allemagne. Et ici, les risques pour l'augmentation de la consommation, ils sont assez faibles. Et les frais d'exécution par l'État, ils sont assez relativement bas, puisque on miserait en premier lieu plutôt sur la responsabilité individuelle des personnes qui sont concernées. Mais en revanche, dans les côtés négatifs, cette approche est moins susceptible d'évincer le marché noir. Et une deuxième alternative, ce serait justement d'autoriser à côté de ça aussi la production et la vente professionnelle du cannabis. C'est une approche qui est maintenant privilégiée aux États-Unis et au Canada, par exemple. Donc ici, les risques ils sont beaucoup plus importants parce qu'il y a justement le risque d'une augmentation de la consommation due à une commercialisation. Donc cette approche, elle va demander d'accorder une importance qui est plus forte au contrôle du marché de la part de l'État. Et par là, on entend notamment des mesures qui sont de la protection de la jeunesse, la protection des consommateurs et des mesures de prévention et de réduction des risques.
Parce que là, on aurait des privés qui vendraient du cannabis et plus des organismes.
Ou des organismes privés ou publics, selon, mais il y a une approche commerciale là derrière.
Alors, vous êtes dans les bureaux d'addiction suisse, mais ici, c'est ici qu'on fait actuellement les inscriptions pour le projet CANEL, l'essai pilote lausannois pour le cannabis. Et puis, c'est ici que les gens viennent et puis qu'on leur explique le projet, qu'ils remplissent des formulaires de consentement, d'inscription, etc. Et puis, lundi, on va ouvrir le point de vente. Et puis, on a acheté du cannabis là-bas. Il y a à peu près 300 inscrits en ce moment. Donc, on a ouvert les inscriptions. Là, on vient d'en ouvrir 1000 de plus. On va voir si les gens continuent de venir. Mais on espère qu'on aura à peu près 1500 personnes dans ce projet pilote. Alors, je m'appelle Franck Zobel, je suis directeur adjoint et co-responsable du secteur recherche d'addiction suisse. Je suis membre de la commission fédérale pour les questions liées aux addictions et aussi membre de la commission vaudoise pour les questions liées aux addictions. Et voilà, je travaille depuis 30 ans comme chercheur dans le domaine, surtout des drogues illégales.
C'est le 8 décembre que nous avons rencontré Franck Zobel, soit 3 jours avant l'ouverture du point de vente de cannabis lausannois. Un cannabis suisse et bio produit par une entreprise privée contrôlée, un modèle proche du modèle québécois qui diffère des cannabis social club où une communauté de consommateurs cultive son propre produit.
Les villes suisses, elles ont choisi différents modèles pour vendre le cannabis. Les villes suisses alémaniques, elles étaient parties il y a longtemps, quand il n'y avait pas encore de loi pour les faire, sur une idée de faire ça en pharmacie. Mais elles sont un peu restées sur cette idée-là, Bâle, Berne, Zurich en partie. Et puis en Suisse romande, on était un peu sur d'autres modèles. On a dit, c'est la même chose à Genève. On a dit, non, nous, on ne va pas confier ça à un acteur privé. En plus, le cannabis dit récréatif, il n'a rien à faire dans une pharmacie où il y a aussi du cannabis médical. C'est un mélange des genres qui n'est pas très malin. Et donc, on a décidé de créer nos propres points de vente dans lesquels, on développe une sorte de philosophie de point de vente où on n'essaye pas d'inciter les gens à consommer, on les incite à se protéger eux-mêmes, à protéger des tiers aussi, leur famille, les gens sur la route quand ils conduisent, ce genre de choses. Donc on a un modèle un peu différent de ce qui se fait en Suisse alémanique.
La bête noire, c'est le marché noir?
Non, il y en a deux. En fait, ça c'est une bonne question, il y en a deux de bêtes noires. Il y a le marché noir, puis il y a le marché hyperlibéral. On sait de l'alcool et du tabac, le marché hyperlibéral, il est aussi très dangereux. C'est-à-dire que le marché noir, c'est le marché où on ne sait pas ce qu'on prend, où on n'a pas accès aux consommateurs. Et puis, il y a le marché hyper-libéral où c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux consommateurs. Il y a des gens qui font des promotions, qui proposent toutes sortes de produits sans avoir réfléchi au danger du produit. Et puis, on veut ni l'un ni l'autre. On est vraiment au milieu de tout ça en disant, attention, on peut faire ni marché noir, ni marché libéral. Il y a des possibilités au milieu. Et ça, dans la communauté des chercheurs dans le domaine de la santé publique, sur la base des expériences qui se déroulent aujourd'hui en Amérique du Nord, il y a un peu l'accord que c'est ça qu'il faut faire.
Et donc, je suis allé voir sur le site et les inscriptions sont encore ouvertes.
En fait, on a lancé les inscriptions en septembre. On a lancé 500 rendez-vous possibles pour des personnes qui s'inscrivent. On a eu un phénomène à la paléo, c'est-à-dire qu'en 2 heures, tout était réservé. On a maintenant rencontré la plupart des personnes qui ont pris ces premiers rendez-vous. Puis on a remis 1000 rendez-vous possibles jusqu'à l'été prochain, jusqu'au mois de juin. Et donc, ça s'est fait hier. Et donc, jusqu'au mois de juin, 1000 personnes peuvent encore s'inscrire pour participer au projet. Puis après, on verra. Si on en avait encore plus, on réfléchira. Est-ce qu'on ouvre un deuxième point de vente, etc. L'idée, c'est vraiment de prendre un maximum de gens, à la fois pour l'étude, pour pouvoir suivre les gens, mais aussi parce qu'on aimerait bien aussi un peu assécher le marché noir. On aimerait bien voir aussi l'impact qu'on a sur le marché noir. Donc nous, on est plutôt ouvert à un maximum de participants, mais ça demandera évidemment des aspects organisationnels si jamais on avait beaucoup plus de gens qu'on pense atteindre. L'autre chose qui se passe, c'est qu'on se rend compte, quand les gens viennent ici s'inscrire pour l'essai pilote, il y a des gens qui rasent les murs. Il y a quand même encore un truc avec le cannabis, c'est illégal, je ne suis pas très à l'aise avec ça, je suis jugé. Il y a quand même encore une stigmatisation autour de ça, où il y a des gens qui probablement ne viendront pas simplement parce qu'ils ne sont pas à l'aise de parler de leur consommation de cannabis. Ils ont l'impression, si vous voulez, qu'on va les juger pour ça.
Donc il n'y a pas un but qu'ils consomment moins, qu'ils arrêtent, c'est pas ça?
Alors il y a vraiment, ce n'est pas l'objectif de ces essais-là. De consommer autrement ou moins, oui. Pourquoi pas, mais vraiment dans un but de se protéger soi-même. On n'est pas en train de mener, si vous voulez, une espèce de croisade contre le cannabis. On est en train de mener une croisade pour que les gens fassent attention à eux-mêmes et à leur entourage. Et donc, c'est plus sur ces questions-là, si vous voulez, qu'on va agir, quoi. Et on va agir à la fois quand on pourra interagir avec les personnes, mais aussi avec un modèle qu'on leur propose, qui est un modèle qui est très, très différent du marché noir, qui est vraiment un modèle d'un lieu de vente dans lequel il y a des brochures, il y a des informations, on n'a aucune incitation à la vente, on explique les produits, on explique les risques liés aux produits si on nous le demande, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, ils vont changer d'univers, si vous voulez, par rapport à leur accès au cannabis.
Pour terminer, c'est quoi les marqueurs du succès du projet ?
Alors le premier marqueur, c'est si les gens viennent. On a déjà un petit succès d'ailleurs, que je trouve, c'est que donc on rencontre les gens pour les inscriptions, on n'a même pas encore ouvert le point de vente, et puis ils nous semblent adhérer beaucoup à notre projet. C'est-à-dire ils trouvent que la manière dont on vend le cannabis, elle est bien. Donc ça, c'est notre petit succès personnel à nous. Ça, il n'apparaîtra jamais dans les résultats scientifiques, mais on en est déjà assez fiers. Et puis le succès, ce sera s'il y a une grande partie des consommateurs réguliers de cannabis qui viennent là, dans notre point de vente, qui adhèrent à ce projet, qui participent à cette étude. Et puis le succès, ce sera si leur comportement de consommation s'améliore pendant l'essai, c'est-à-dire que s'ils font plus attention à eux-mêmes dans le cadre de et aux autres dans le cadre de cet essai. Si on arrive à faire ça en l'espace de quelques années avec cette cohorte de consommateurs réguliers de cannabis, ça voudra dire qu'on est capable d'influencer leur comportement, puis de les aider à faire attention à eux. Et puis nous, on aura gagné. Parce que ça, sur le marché noir, il n'y aurait personne qui aurait pu faire ça.
Non, elle n'est pas particulière par rapport à d'autres pays. Il y a une consommation assez large. Il y a pas mal de monde qui consomme. À certains moments, jusqu'à un tiers de la population adulte a déjà essayé une fois du cannabis.
Daniel Tsulino est chef du service d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève et professeur à l'Université de Genève. Il est psychiatre avec une spécialisation en psychiatrie des addictions.
Il y a une partie des consommateurs qui développent des problèmes liés à leur consommation, par exemple une addiction. Rappelons que c'est un produit qui est potentiellement addictif, comme l'alcool, le tabac et d'autres substances. Mais la plus grande partie des consommateurs consomment sans avoir des problèmes.
Des problèmes d'addiction donc ?
Pas seulement de problèmes d'addiction, aussi d'autres problèmes. On peut bien sûr avoir des problèmes respiratoires, moins qu'avec le tabac. On peut aussi avoir des problèmes psychiatriques. Là, la question se posera, est-ce que les problèmes psychiatriques sont dus à la consommation ou la consommation est une expression des problèmes psychiatriques? Mais en tout cas, la prévalence de problèmes psychiatriques chez les consommateurs de cannabis est plus haute que chez les non-consommateurs de cannabis.
Et sur la santé mentale en particulier ?
Et sur la santé mentale en particulier, dépression, un peu de troubles anxieux et troubles psychotiques. Là, la grande question est où est l'œuf et où est la poule. Du moment qu'on a un problème, on a un risque de consommer tout type de substances, cannabis inclus, et du moment qu'on consomme des substances addictives, on risque d'avoir des problèmes psychiatriques.
Alors justement, est-ce que la corrélation consommation de cannabis et schizophrénie est avérée ?
Si on commence à regarder les corrélations entre une consommation de cannabis ou de tabac et de psychose, on trouve que la consommation de cannabis augmente le risque de développer une schizophrénie. Donc d'abord cannabis, quelques années plus tard, schizophrénie. L'interprétation classique est c'est le cannabis qui le provoque. Parce que le cannabis a un effet psychotogène. Sous cannabis, on a une psychose toxique. Alors c'est ce qu'on cherche aussi en consommant du cannabis. On a une désorganisation de la pensée, on a des altérations des perceptions, ce qu'on appelle une psychose. On a plus ou moins les mêmes chiffres pour le tabac. Les fumeurs ont un risque plus important de développer une psychose. La même chose pour l'alcool. On sait que consommer de manière addictive de l'alcool est associé avec un risque de 2 à 3 fois de développer dans les années à venir des symptômes psychotiques. Alors, résultat des courses, c'est que toutes les substances addictives, toute la consommation de substances addictives est liée à un risque de développer une psychose. Mais en fonction de la substance, on l'interprète d'une manière ou d'une autre. S'il y avait vraiment un lien causal unique pour le cannabis ou pour les substances qui sont psychotogènes de manière aiguë, on ne devrait pas le trouver pour le tabac ou pour l'alcool, et on le retrouve, malheureusement. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la substance elle-même, Mais éventuellement, c'est la manière de consommer la substance de manière addictive qui est le facteur risque. Parce que c'est ça un peu qu'on a trouvé. C'est petite consommation de cannabis, pas de lien. Grande consommation de cannabis et de manière addictive, il y a un risque.
Le professeur Daniel Zulino fait remarquer que les personnes victimes de stress chronique sont plus sujettes à l'addiction. Les facteurs de stress chronique peuvent être une situation sociale défavorable comme la pauvreté, une maladie ou des douleurs chroniques. Pour traiter les patients atteints d'addiction, le traitement classique est l'entretien motivationnel qui permet de voir avec le patient ce qu'il souhaite ou non dans sa vie et trouver les comportements qui augmentent les chances d'atteindre le type de vie qu'il souhaite. Et ça marche ?
Ça marche, oui, bien sûr, ça marche. Ça prend du temps. On n'a pas appris à consommer de manière automatique d'un jour à l'autre. C'est un apprentissage. Les addictions se manifestent par des automatismes. Ce qui est typique, c'est qu'il y a un stimulus qui déclenche un automatisme. Un automatisme veut dire qu'on n'a pas besoin de ressources cognitives, pas besoin d'une conscience, pas besoin d'une décision rationnelle pour le faire. C'est comme ça qu'on apprend à jouer du tennis, c'est comme ça qu'on apprend à conduire une voiture. On automatise. Et du moment qu'on a automatisé la conduite d'une voiture, on ne va plus prendre une décision très consciente quand on s'arrête au feu rouge. On le fait automatiquement. Donc, pour corriger ça, il faut d'abord de nouveau amener une réflexion des décisions rationnelles. Et il faudra automatiser des comportements alternatifs. Au début, réflexion, après répétition du comportement alternatif, répéter, pour qu'il y ait de nouveau la possibilité ou bien de consommer ou ne pas consommer. Du moment qu'on a de nouveau le choix et on peut décider rationnellement, on est, entre guillemets, on est guéri. Ce n'est pas l'abstinence qui est la guérison, c'est la capacité à décider qui est la guérison.
Alors si on parle de risque, on sait que la consommation de cannabis est plus élevée chez les jeunes et très jeunes, avec un pic entre 20 et 24 ans. Qu'est-ce qui est donc efficace en termes de prévention pour les jeunes? Les campagnes de sensibilisation?
Des campagnes d'information ne sont pas extrêmement efficaces. Ce qui est efficace, c'est le dépistage précoce et l'intervention précoce. On essaye de dépister le plus tôt possible, en âge le plus jeune possible, les jeunes qui commencent à développer des problèmes. Donc c'est au niveau école, au niveau de l'éducation et éventuellement au niveau aussi de la médecine de premier recours que ça se passe. Plus tôt on intervient, plus facile il est d'intervenir. Donc c'est une sorte de prévention secondaire plus ciblée, mais définitivement efficace. Là, il n'y a pas de doute.
Là, on parle de jeunes qui consomment tous les jours, des choses comme ça?
Pas forcément. C'est des jeunes qui peuvent consommer à un moment inadéquat. Bien sûr, du moment que c'est interdit, c'est par principe inadéquat. Mais qui viennent intoxiquer au cours et qui ne suivent plus les cours. Ou pour d'autres substances, pour d'autres produits. Par exemple, des produits, voilà, consommation sur Internet, qui décrochent, où vous avez un changement dans les performances scolaires. C'est des signes assez simples et assez clairs. Des interventions sont souvent plutôt courtes. Pas besoin d'années d'intervention, pas besoin d'hospitalisation. Parfois, avec quelques ajustements de la consommation contrôlée, on peut arriver à résoudre le problème.
Donc quand vous dites consommation sur Internet, ça veut dire les écrans, c'est ça?
Oui, oui. Okay.
Ce n'est pas du tout la cannabis, c'est une autre addiction.
C'est une autre addiction, mais il n'y a pas que les substances qui peuvent induire des addictions. Notre cerveau n'a pas attendu, la biologie n'a pas attendu qu'on découvre l'alcool ou le cannabis ou la cocaïne. Notre cerveau a été sélectionné, entre guillemets, sélectionné par l'évolution pour répondre, pour automatiser des comportements particuliers en réponse à des stimuli particuliers qui sont, par exemple, des stimuli sexuels. C'est pour ça qu'on a une addiction à la pornographie ou aux stimuli liés aux aliments forts en calories, C'est pour ça que des aliments fast-food peuvent induire des comportements de type addictif. Donc, on a un cerveau qui est prévu pour ça.
Daniel Soulineau, qu'est-ce qui changerait pour le travail de prévention si la consommation de cannabis était autorisée à des fins non médicales?
Ce qui va changer, c'est que déjà le produit sera un autre. Alors, actuellement, on est dans un système avec un produit illégal. Produit est distribué par des personnes qui ont déjà pris tous les risques. Leur intérêt n'est pas de mettre sur le marché un produit qui prenne en compte la santé des consommateurs. Ce n'est pas le cas. Quand vous avez un produit qui est légal, qui est réglementé par l'État, où l'État peut émettre des règles, et pas seulement l'État, aussi la société comme telle peut émettre des règles sociales, on a un regard là-dessus. On peut définir quel est un bon produit, qui devrait avoir accès, qui ne devrait pas avoir accès. C'est un produit avec des risques, comme une voiture. Une voiture est un produit à risque où on a un règlement qui dit que sous ces conditions, vous pouvez conduire. Sous ces conditions-là, vous n'avez plus le droit. Donc, on peut réglementer. Après, il y a un aspect sociétal. Vous avez probablement une idée à partir de quelle heure on devrait pouvoir boire l'apéro. Je suppose que c'est plus ou moins la même heure que j'ai aussi en tête. Qui a changé aussi à Genève? Qui change même dans d'autres régions? On est d'accord que l'apéro, ce n'est pas à 7 heures le matin. On ne va pas aller plus loin. Il y a un consensus sociétal sur ça. Quelqu'un qui boit plus tôt est, entre guillemets, mal vu. Il y a une certaine pression à ne pas le faire. On a eu ces changements pour le tabac. Aujourd'hui, on ne fume plus dans les bureaux, on ne fume plus à l'hôpital, on ne fume plus dans les restaurants, et ça serait mal vu. Pour le cannabis, on n'a pas ce consensus. C'est la présence d'un produit qui est potentiellement disponible qui va induire ce débat et qui va à la fin créer ce discours de ce qui est socialement acceptable ou non. Après, ça ne va pas enlever les problèmes, ça ne va pas, bien sûr, pas empêcher les addictions.
D'après ce qu'on observe dans les pays qui ont réglementé le cannabis, la consommation des adultes augmente dans la phase initiale, mais chez les mineurs, avec la levée de l'interdit, elle diminue. Enfin, pour Daniel Soulineau, rien que le débat de ce qu'est une bonne consommation est en lui-même une prévention primaire et même secondaire.
Et vous, à titre très personnel, vous pensez que c'est inéluctable qu'on va changer de mode?
Ouais, moi, j'ai pas de doute, hein. Honnêtement. Je regarde ça depuis longtemps. Et puis, quand le 1er janvier 2014, j'ai vu le premier marché du cannabis légal s'ouvrir au Colorado, je me suis dit, voilà, c'est parti. Depuis, il y a la moitié des États des États-Unis qui ont légalisé le cannabis. Il y a le Canada qui a légalisé le cannabis. Il y a l'Uruguay. On commence à en parler beaucoup en Europe. Il y a eu des premières étapes au Luxembourg, à Malte. Il y a les Tchèques qui veulent faire quelque chose. Il y a les Hollandais qui font de nouveaux projets pilotes. Il y a les Allemands qui ont mis ça dans leur programme de législature. Donc voilà, ça vient. Il n'y a pas grand doute. Chaque fois qu'il y a une enquête qui est faite en population pour savoir quelle est l'opinion de la population, on voit qu'il y a des majorités. Alors, elles peuvent encore changer, hein, ce n'est pas impossible. Mais on sent vraiment qu'il y a une vague, il y a une transformation de l'image de cette substance. Et on l'a vécu en Suisse, hein, avec le CBD, tout d'un coup, qui était disponible à chaque coin de rue. Aujourd'hui, la prescription de cannabis médical. L'image du cannabis est en train de changer. Et donc, la grande question aujourd'hui, c'est comment on le légalise, le cannabis, parce que là, on peut faire des grosses bêtises dans la manière qu'on a de le légaliser. Et encore une fois, c'est pour ça aussi qu'on fait ce projet Canel, c'est pour dire, mais regardez, on peut aussi vendre le cannabis de manière intelligente, sans, si vous voulez, le mettre à côté de la caisse, au supermarché, pour inciter les gens à le consommer avec du 2-pour-1, si vous voulez, le samedi matin, quoi. Voilà.
Tous les développements vont dans ce sens-là. Si on veut régler les problèmes, et je pense que tout le monde veut les régler, ça sera comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir faire autrement que les Américains qui normalement disent non? Eux, ils disent oui. Et la Suisse, qui était pionnière dans beaucoup de choses, il faut qu'elle recommence à être pionnière. Avec les projets pilotes, elle l'est. Pas tout me plaît dans les projets pilotes, mais finalement, je dois avouer que le modèle suisse d'y aller en expérimentant est un très, très joli modèle. Et on commence à nous copier. Ça intéresse. Donc, pour ça, elle est redevenue pionnière.
Spectra, c'est fini. Un grand merci à ceux qui ont permis de le réaliser. Coralie Ménétret de l'Office fédéral de la santé publique, Franck Zobel d'Addiction Suisse et Daniel Zulino du Centre d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève. Pour plus d'informations et beaucoup d'autres compléments sur le sujet, je vous recommande de consulter le dernier numéro de Spectra format papier, qui l'an prochain d'ailleurs passe intégralement en numérique. Pour le trouver, une seule adresse, spectra-online.ch. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.
Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.